Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue pour une nouvelle série Santé au naturel en compagnie du docteur Jean-Christophe Charrier, médecin généraliste formé à la phytothérapie clinique qu'il enseigne en France et à l'étranger depuis 2003. Il est aussi expert et enseignant en endobiogénie qui prône une médecine intégrative, plus à l'écoute des patients et cofondateur de l'IEMPI, l'Institut d'endobiogénie. Il est également auteur de livres best-sellers tels que « Se soigner toute l'année au naturel » aux éditions Pratt. Alors dans ce nouvel épisode, nous allons parler du rôle de cette glande majeure, la thyroïde, la fameuse glande papillon, et de comment nous pouvons l'aider à la réguler. Et pour cela, bien sûr, on se retrouve aujourd'hui avec le docteur Jean-Christophe Charrier. Bonjour.
Bonjour Anne, bonjour tout le monde.
Bonjour tout le monde. Alors on va parler de cette fameuse glande qui fait partie du système endocrinien et qui est décrite, enfin que vous décrivez dans certains articles, comme la chaudière de l'organisme.
Oui. Parce que elle gère une grosse partie de notre énergie. Mmh. Et puis elle a des petites difficultés à l'allumage parfois, ou des petites difficultés à s'éteindre aussi. Et donc elle est réglée un peu comme la chaudière de la maison, c'est-à-dire que quand le froid arrive, on va allumer la chaudière et c'est là qu'elle tombe en panne souvent.
Oui.
C'est au démarrage qu'on doit appeler les plombiers et tout ça. La thyroïde, elle peut faire un peu des petits ratés comme ça. Et puis au printemps, parfois, elle est en surconsommation énergétique parce que, comme à la maison, comme les nuits sont fraîches mais que les journées sont chaudes, on n'éteint pas forcément la chaudière et on a tendance à ouvrir les fenêtres, ce qui est un peu paradoxal parce que chauffer les petits oiseaux, c'est pas très bon pour la planète.
Non.
Mais c'est des comportements qu'on peut avoir. Enfin, qu'on a tous eu un jour dans notre vie d'ouvrir une pièce si on avait trop chaud, alors qu'en fait, il faut simplement éteindre la chaudière. Mais au printemps, on n'a pas ce réflexe-là. Et donc, cette thyroïde, elle a également les mêmes difficultés d'adaptation au printemps.
Intéressant.
Voilà.
Ouais. On parlera de l'automne aussi tout à l'heure dans un deuxième temps. Alors, est-ce qu'elle est aussi importante chez l'homme et chez la femme, cette glande?
Alors, elle est très importante et elle ne dépend pas du sexe, en fait. Par contre, elle est plus fragile chez la femme.
D'accord.
Et elle est plus facilement palpable chez la femme que chez l'homme. Hein, parce que quand elle est normale, on va dire, on peut la palper chez à peu près la moitié des femmes, alors qu'on ne la palpera que chez un quart des hommes, à peu près. Donc ça peut éveiller un peu de façon précoce l'attention du médecin.
Oui.
Parce que palpable ne veut pas dire pathologique. Hein.
Elle se situe où exactement pour qu'on la situe bien?
C'est vraiment un petit papillon, hein, comme vous avez dit en introduction. Et c'est un petit papillon qui est venu se poser juste sous notre peau, à la base de notre cou. Mm-hmm. Anne pourrait vous dire, hein, parce que je mime en même temps que je vous parle.
Parce il fait des gestes que vous ne voyez pas. C'est vraiment à la base du cou.
Voilà, et qu'on peut avec deux doigts, par exemple l'index et le majeur, venir à la base du cou, dans le petit V qu'on a en bas de la base.
Petit creux là.
Voilà, et si on vient palper très en douceur, on peut venir sentir un petit tissu mou qui est installé à ce niveau-là. Et quand on a un doute, on fait déglutir les gens. C'est pour ça que le médecin vous demande d'avaler. Et en avalant, on fait la distinction entre la thyroïde et puis le petit cartilage qu'on a dessous et qui monte et qui descend quand on avale. Donc c'est en ça que c'est intéressant de...
D'ailleurs, quand on appuie dessus, là, parce que je vous voyais faire, j'essayais de voir où c'était et c'est pas très agréable.
C'est pas agréable. Il y a des personnes qui ne supportent pas cet examen.
Oui.
Et un jour, comme ça, en faisant cet examen chez une femme qui était... qui avait déjà un certain âge, hein, qui avait plus de la cinquantaine passée, eh bien, on est parti un peu en live, on va dire, dans la consultation, parce qu'on fait, elle avait eu une violence dans un parking quand elle était jeune, autour de 20 ans, avec une strangulation qu'elle avait complètement effacée de sa mémoire. Et moi, tout gentiment, j'arrive derrière elle et puis je fais mon examen. Je dis, on va palper la thyroïde. Je pose mes doigts et là, ça lui a réveillé cette mémoire. Et c'est surprenant. Ouais. Hein, on est dans une zone, en fait, qui est très liée à l'émotivité aussi. Donc, c'est pas anodin, cette histoire. Je la raconte pas pour raconter une histoire, mais parce qu'il y a du lien entre cette thyroïde, nos émotions, la dynamique énergétique. Et c'est une zone également qui est vitale pour nous, cette zone-là. C'est pour ça que qu'on n'aime pas. Si j'appuie très fort avec le doigt, je peux m'empêcher de respirer et de pouvoir parler. Et là, je n'étais que modéré dans mon appui. Si je vous tape, on voit ça dans les films de karaté où ils viennent taper brutalement à cette base-là. Les gens, ils ont le souffle coupé et parfois, ils peuvent même s'étouffer comme ça. Donc, on n'aime pas. C'est une zone fragile.
Oui.
C'est une zone qu'on vient exposer un peu au monde. Et je n'ai pas fait de grec ni de latin, mais je crois que thyroïde, ça vient de thyros, qui veut dire bouclier.
Intéressant. Alors justement, quel est le lien avec les émotions et en quoi est-elle une glande qui règle nos émotions, nos humeurs, etc.
Parce que, alors, elle dépend de tout un système qu'on appelle l'axe thyréotrope. Donc c'est tout le système de différentes glandes qui vont interagir entre elles pour conditionner le fonctionnement de cette glande-là qui est la thyroïde. Alors ça, c'est le système endocrinien qui marche comme ça, hein. Vous avez un chef...
Rappelez-nous ce que c'est que le système endocrinien, parce que c'est vrai qu'on en parle souvent, mais parfois je me demande, est-ce que tout le monde sait ce que c'est finalement ?
C'est une bonne question. Le système endocrinien, c'est le système qui produit nos hormones. Qu'est-ce que sont nos hormones ? Parce que ça aussi, c'est un autre problème.
Ouais.
Qu'est-ce que sont nos hormones ? Les hormones sont des molécules qui apportent une information à d'autres tissus. La thyroïde, par exemple, fait deux hormones principales qui sont la T3 et la T4. On les appelait comme ça parce qu'elles contiennent des ions iode. Et donc la T3 a 3 ions iode et la T4 a 4 ions iode.
D'accord.
T pour thyroïde et puis le chiffre en fonction du nombre d'ions iode. Vos ovaires vont fabriquer des hormones qui sont les œstrogènes, la progestérone, des androgènes. Les testicules pour les hommes produisent les mêmes hormones, plus la testostérone qui est un peu spécifique aux garçons. Quoi d'autre ? Les surrénales vont produire le cortisol. Le cortisol, c'est les corticoïdes qu'on peut vous donner en médicaments de substitution pour être anti-inflammatoire. Ça fabrique l'aldostérone, qui est une hormone qui gère, qui est un peu moins connue, mais qui gère le volume sanguin, le volume du liquide qu'on garde dans nos tuyauteries, on va dire, donc le volume sanguin, et qui va conditionner la bonne pression au niveau du cœur. Donc parfois on a des médicaments anti-aldostérone pour faire baisser la tension. Voilà, on a de l'insuline que tous les diabétiques connaissent. Et si vous connaissez un diabétique autour de vous, vous savez que l'insuline est une hormone qui fait baisser le taux de sucre dans le sang, parce que c'est une hormone qui va ouvrir en fait le coffre-fort des cellules pour que le sucre rentre dans le coffre-fort plutôt que de circuler, et ça va apporter l'énergie à la cellule. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme hormones ? Après, on va rentrer sur des choses un peu plus complexes.
Alors, qui est le chef d'orchestre un peu de tout ça ? Est-ce que c'est justement la thyroïde ou c'est l'hypophyse ?
Non. La thyroïde, c'est juste un instrumentiste, en fait.
Oui, d'accord.
Donc, on a un orchestre avec nos glandes périphériques. Donc, il y a la thyroïde, la surrénale, la génitale. Il y a la génitale, c'est la gonade, en fait, le testicule ou l'ovaire. On a le foie, le pancréas. Le foie étant la plus grosse glande de l'organisme. Ça ne veut pas dire que c'est elle qui travaille le plus. Voilà, on a ces glandes-là, ça c'est l'orchestre. Et puis il y a un chef d'orchestre qui va être l'hypophyse. Mais ce chef d'orchestre, il a une particularité, c'est qu'il a un surchef qui est l'hypothalamus.
Et qui sont situés...
Alors à la base du crâne, ces deux glandes-là. Et en fait, l'hypothalamus, c'est comme si notre chef d'orchestre avait une oreillette en fait. Et comme ça se passe à la télé, et qu'on lui dit tourne un peu la tête, fais voir un beau sourire, des choses comme ça, pendant qu'il est en train de faire son guidage d'orchestre. Et la part émotionnelle de la thyroïde dépend surtout du surchef.
D'accord.
Donc l'hypothalamus. Et l'hypothalamus, c'est vraiment une glande du cerveau. Alors ça se trouve où ? Ça se trouve à la base de notre cerveau, et ça se trouve dans une projection qui passerait au-dessus de nos deux oreilles, une ligne droite qui passe par là, et une ligne droite qui passerait entre nos deux yeux, au-dessus de la racine du nez. Voilà. Tac, si on fait ça, et on a un petit, sur les radios, on voit un petit trou, enfin une petite selle, comme une selle de cheval qu'on appelle la selle turcique. Et c'est dans cette petite selle que vient poser cette glande.
D'accord.
Donc elle est quand même intracrânienne, protégée par de l'os. Cet hypothalamus fabrique une hormone particulière qui gère l'axe thyréotrope, qui s'appelle cette hormone la TRH.
D'accord.
La TRH agit sur la TSH, qui est l'hormone hypophysaire, celle qu'on vous dose dans le sang quand on veut voir si votre thyroïde fonctionne bien. Et cette TSH va agir sur la thyroïde pour produire de la T4 et de la T3. La T4 va revenir à l'hypophyse pour lui dire « il y en a assez, donc tu me stimules moins ».
Oui.
Donc, il y a un rétrocontrôle de régulation par le biais de la T4. Et paradoxalement, la T3 qu'on mesure dans le sang n'est pas forcément celle utilisée au niveau cellulaire, puisque la TRH a un rôle en périphérie et va transformer de la T4 en T3 au contact avec la cellule pour que la T4 perde son iode et rentre dans la cellule.
Oula !
Ah, ça devient compliqué.
Ouais, ça devient compliqué. Alors,
tout ça pour dire qu'il y a plein de régulations, d'autocontrôle, de rétrocontrôle, de stimulation, de freination.
Alors, la question qu'on se pose, c'est effectivement, qu'est-ce qui entraîne une dérégulation, notamment chez la femme, mais aussi chez l'homme, et quels sont les signes, de cette dérégulation, finalement ?
Alors déjà, on peut avoir des signes psychiques parce que j'ai pas tout terminé. C'est que la TRH, elle a ce rôle sur l'axe et puis elle a un rôle particulier parce qu'elle agit directement sur le cortex cérébral et elle va influencer notre humeur, elle va influencer notre créativité, elle va influencer notre émotivité. Elle va nous mettre dans les joies ou dans les peurs. Elle va être un des éléments déclencheurs de l'artiste qui va peindre son tableau, de l'écrivain qui va écrire son livre. Et le syndrome de la page blanche d'un écrivain, c'est quand sa TRH n'est plus productive en information.
Alors, on a l'impression, quand on dit ça, que ça nous réduit un peu à de la chimie et finalement à l'état de nos hormones.
Alors, en grande partie, oui. Mais ça, c'est la mécanique du fonctionnement de notre organisme. Après, il y a d'autres choses, mais qui sans cette mécanique-là, ne peuvent pas s'exprimer. Mmh. Hein, donc, on est plus que la somme de nos parties.
Oui, bien sûr. Hein. Et puis après, toute la question, c'est l'œuf et la poule. Quel est l'impact du somato ou de la mécanique physiologique qui a un impact sur le somato et vice-versa, quoi.
Mmh. Tout à fait. Donc, c'est une mécanique complexe, mais c'est un rouage dont on ne peut pas se passer dans cette mécanique. Donc, on n'est pas que l'influence de nos hormones, mais on l'est quand même un peu. Et on a parfois des comportements qui dépendent vraiment de nos hormones. Quand vous avez quelqu'un qui est très bagarreur, par exemple, et qui va répondre par un coup de poing brutalement à chaque fois qu'il est dans la surprise ou dans la peur, c'est pas son psyché qui fait ça, c'est sécrétion hormonale. Vous avez certaines personnes qui vont être... on va pas rentrer dans tout un tas de détails, mais on peut avoir des comportements qui sont asociaux, on va dire, parfois, et qui en fait, c'est des personnes qui, certes, il faut les recadrer dans la société, mais parfois, ils ont des pulsions qu'ils ne maîtrisent pas parce que leurs hormones sont en décharge violente et qu'il y a un incontrôle. Donc, on a ça beaucoup avec les adolescents qui ont des charges hormonales qui montent et qui peuvent rentrer dans la délinquance facilement à ce moment-là parce qu'ils ont des pulsions qui les incitent à aller briser une vitre d'une voiture et de piquer la voiture et faire un tour. Mais ça dépend de leurs hormones, ça dépend pas que de leur psyché.
Oui.
Hein? Alors, bien sûr, et ça, on le trouve dans toutes les classes sociales. Donc, c'est pas parce qu'on est dans un milieu défavorisé qu'on est délinquant. Il y a des adolescents de milieux extrêmement favorisés qui sont délinquants aussi. Hein? Donc, il y a bien sûr que le poids de l'éducation, ça met du surmoi et ça met le petit gendarme qui nous évite de faire ça. Puis il y a des personnes qui décompensent complètement.
Mmh, c'est clair.
Et ça, c'est lié en partie à nos hormones.
Mmh, intéressant. Hein. Alors revenons sur les signes, du coup, puisque vous étiez en train de les décrire.
C'est les signes des dysfonctionnalités de l'axe thyréotrope.
Comment est-ce qu'on peut se dire, oula, j'ai peut-être un problème de thyroïde.
J'ai peut-être un problème de thyroïde si j'ai une fatigue saisonnière déjà. Donc c'est pas normal d'être fatigué. C'est normal sans être normal. C'est normal d'avoir une petite fatigue au changement de saison. C'est pas normal de tomber dans une fatigue contre laquelle on a beaucoup de mal à lutter et qui nous envahit, qui fait qu'on s'endort au volant de la voiture, qui fait qu'on s'endort sur le poste de travail. Enfin, ça, c'est des choses qui sont excessives, mais voilà, ça peut être un problème thyroïdien, faut aller voir. On peut avoir un excès d'énervement, hyper irritable, insupportable à la maison. On peut rien vous dire et puis vous partez au quart de tour à crier sur tout le monde pour des événements parfois qui sont qui méritent pas ça, quoi. Et on se rend compte après que ben on se reconnaît pas, parce que c'est pas ma personnalité de crier comme ça sur mes enfants, mais là j'en peux plus.
Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Je suis au bord de la crise de nerfs.
Voilà, donc ça c'est plutôt un côté hyperthyroïdie, une thyroïde qui fonctionne un peu trop. Donc l'hyperthyroïdie, elle met tout en hyperfonctionnement. Donc on est très émotif, on peut partir en colère facilement, on a des réflexes extrêmement vifs. C'est-à-dire que quand le médecin va vous percuter le réflexe au niveau du genou, par exemple, ça va être très, très vif. C'est très important, les réflexes, parce que avant qu'on soit capable de doser les hormones dans le sang pour porter le diagnostic d'une hyperthyroïdie ou d'une hypothyroïdie, on faisait un réflexogramme.
Ah oui.
Ouais, donc on mettait les gens à genoux sur la table et on tapait sur leur tendon d'Achille et on avait une machine qui mesurait la vitesse du réflexe, comme le radar qui vous contrôle sur les autoroutes, hein, et qui, en fonction du chiffre qui sortait, disait ben là, on est plutôt en hypo, là, on est plutôt en hyper. Donc, l'hyperthyroïdien, il a des réflexes vifs, qui fait qu'il va sursauter pour un rien, entre autres. Il va maigrir beaucoup, parce que la chaudière, c'est un feu de paille qui brûle. Il va avoir tendance à avoir des bouffées de chaleur qui ne sont pas liées à la ménopause, parce qu'on n'avait pas à cet âge-là, par exemple.
Oui, parce que ces signes-là peuvent être confondus aussi avec des syndromes prémenstruels, par exemple.
Aussi, mais parce qu'ils y contribuent, on fait ces syndromes prémenstruels en étant dans une certaine normalité. Hein, donc, c'est l'excessivité de ces signes-là. Donc là, on est plutôt... Des gens qui peuvent être d'une telle tonicité qui ne peuvent pas dormir ou qui ont des nuits très agitées, qui vont défaire tout le lit après la nuit, pendant la nuit. Il y a un champ de bataille le lendemain matin. Ça peut être des choses comme ça. On voit l'amaigrissement beaucoup, ce qui peut nous inquiéter aussi. Bon, ça, c'est l'hyperthyroïdien. Et à son opposé, on a l'hypothyroïdien qui, lui, va prendre du temps pour faire les choses, va prendre du poids progressivement qu'il n'arrivera pas à maîtriser. Il sera dans ce qu'on appelle des troubles de l'idéation. Donc, ça devient difficile de penser à ce que je vais faire. Donc, est-ce que je vais faire le ménage?
Il pédale un peu dans la choucroute, ouais, c'est ça.
Et c'est surtout la prise de poids, l'infiltration des tissus qui est assez particulièrement liée à la thyroïde. Et il y a ce qu'on appelle le syndrome du tabouret. C'est-à-dire que vous pouvez vous amuser, vous, à la maison, là, vous asseyez sur un tabouret et pas sur un fauteuil.
Oui.
Et la différence entre les deux, c'est qu'il n'y a pas d'accoudoir. Et donc, pour vous lever, vous faites comment? Eh bien, vous allez vous lever tout simplement en vous appuyant sur rien. Si vous avez un fauteuil, vous allez prendre vos bras, vous allez vous appuyer sur l'accoudoir, vous allez vous lever. Eh bien, avec le signe du tabouret, quand vous n'avez pas de problème d'hypothyroïdie, vous pouvez vous lever du tabouret parce que vous avez suffisamment de musculature qui vous permet de le faire. Quand vous avez une hypothyroïdie, vous ne pouvez plus vous lever du tabouret parce que les muscles des cuisses n'ont plus cette capacité de vous soulever tellement ils ont fondu.
Ah, donc ça, c'est un bon test.
On prend du poids, mais on perd du muscle, en fait, dans l'hypothyroïdie. Alors que l'hyperthyroïdien, lui, il va perdre du poids, mais il va prendre du muscle.
Ah, et c'est l'inverse.
Ah, c'est l'inverse. Ouais. Grosso modo, c'est vraiment l'inverse. Ouais. Et en fait, on doit être dans une fonctionnalité entre les deux. Et ce qui est très, très étonnant... Alors ça va peut-être pas parler à grand monde, mais quand on fait de la biologie, qu'on a un chiffre qu'on mesure dans le sang, on le compare toujours avec des normes. Et en général, les normes sont assez pas très étendues. Or, pour la thyroïde, les normes sont extrêmement étendues.
Il y a beaucoup d'amplitude.
Il y a beaucoup d'amplitude. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'amplitude parce qu'en fait, votre thyroïde, elle va bouger en fonction de la saisonnalité, en fonction des besoins. Et la meilleure période de l'année pour avoir un taux de votre TSH le plus bas naturellement dans votre corps, ça va être en plein été, et le taux qui sera plutôt haut sera plutôt de la TSH, sera plutôt dans le plein hiver.
Voilà. C'est-à-dire pas aux intersaisons.
Voilà. Et aux intersaisons, ça peut bouger beaucoup, et parfois, si on fait un bilan sanguin, un premier unique bilan sanguin, et qu'on n'a pas le choix, qu'on le fait dans une intersaison, on peut avoir un chiffre un peu perturbé. Il est urgent de ne pas se presser. Il est urgent d'attendre au moins 6 à 8 semaines avant de refaire un autre dosage. Il est urgent de réfléchir avant de vous mettre un traitement de substitutif sur une seule prise de sang. Ça n'a pas de sens.
D'accord. Donc, il faut bien vérifier ce qu'on peut faire dans ce cas-là et avoir... Qui est-ce qui prescrit ça? C'est le médecin généraliste en général?
Oui, le médecin généraliste fait ça. Ou alors un médecin hospitalier dans le cadre d'un bilan de fatigue générale où on cherche la cause de cette fatigue.
Alors, ça arrive plutôt à partir d'un certain âge où il y a des personnes qui peuvent avoir des... Enfin, globalement, la majorité, évidemment, il y a toujours des cas particuliers. Mais est-ce qu'on a plus de problèmes de thyroïde en prenant un peu d'âge?
Alors, la thyroïde, qui est donc une chaudière, dépend beaucoup de ce qu'on demande à la chaudière de fer. Ce qui demande le travail à la chaudière, c'est surtout les hormones génitales, donc c'est surtout les gonades, donc les ovaires ou les testicules. Il se trouve que l'activité des hormones génitales masculines est assez linéaire dans le temps, alors que les hormones féminines sont plutôt très cycliques. Et tout ça pour permettre la reproduction et la maturation de l'œuf et la ponte de l'œuf et la nidation de cet œuf s'il est fécondé. Donc on a chez la femme beaucoup de variations dans l'axe gonadotrope et des variations qui sont beaucoup sollicitatrices en énergie. Du coup, il y a beaucoup de sursollicitation de la thyroïde chez la femme. Et du coup, la thyroïde est plus souvent atteinte d'une maladie chez la femme que chez l'homme. Donc ça, c'est déjà une première chose. Il y a des hommes qui peuvent avoir des problèmes de thyroïde, mais c'est principalement les femmes. Et on a constaté qu'autour de la quarantaine, c'est une période de grande fragilité pour la thyroïde. Et il y a une autre période qui est autour de la ménopause.
D'accord.
Donc, c'est vraiment des périodes. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre, alors je parle un peu simplement, mais c'est que la thyroïde est rarement malade d'elle-même. Elle est surtout malade de ce qu'on lui demande de faire. Donc, c'est la bonne mule qui est toujours prête à travailler, qu'on charge en activité et qui prendra toujours dessus elle. Et à un moment donné, on lui rajoute un petit paquet de rien du tout et paf, elle s'écroule. Et en fait, c'est pas le problème, c'est pas la thyroïde, c'est la personne qui charge la thyroïde, le problème. Donc, aller enlever une thyroïde sans comprendre toute cette mécanique, c'est reculer pour mieux sauter, parce que si on n'a pas réglé le problème, on va continuer à avoir des sursollicitations qui vont avoir d'autres impacts ailleurs, vu qu'on n'aura plus cet organe tampon qui fera la réactivité. Donc, avant d'aller voir la thyroïde, c'est bien d'aller comprendre la fonctionnalité des hormones génitales.
Alors, comment est-ce qu'on fait justement pour comprendre ça?
Faut être médecin.
Ouais. Pas de chance.
Comment est-ce qu'on fait? On fait des années d'études.
Non, mais on fait des analyses. Comment est-ce qu'on peut après réguler ça pour pas justement en arriver à prendre des traitements de substitution justement?
Quand on n'est pas dans la maladie, on peut faire des analyses qui paraissent normales. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il y a des sursollicitations fonctionnelles de la glande. Ça, c'est des subtilités. Ce sont ces sursollicitations répétées qui vont fatiguer les demandes au niveau de la thyroïde.
Quel type de sursollicitation, par exemple ?
Un besoin énergétique pour produire des protéines, un besoin énergétique pour répondre à des sollicitations immunitaires, un besoin énergétique pour compenser la perte de sang qui est liée aux règles, un besoin énergétique...
Oui, donc des choses qu'on ne maîtrise pas forcément.
Non, du tout.
D'accord. Je pensais qu'il y avait effectivement des facteurs qu'on pouvait maîtriser, qui pouvaient être aggravés par une mauvaise hygiène de vie, mauvaise alimentation, etc.
Alors, l'alimentation peut contribuer parce que la thyroïde est très liée à l'iode. Et on avait autrefois, et maintenant, heureusement, ça n'existe plus. Enfin, je ne pense pas, mais c'est ce qu'on appelait le crétinisme des Alpes. Le mot crétin, aujourd'hui, c'est un mot péjoratif, mais dans la vieille médecine, le mot crétin, ça voulait dire un terrain débilité, un terrain débile. Crétin, c'était des mots qui étaient des mots scientifiques, et qui ont été maintenant transformés, mais qui voulaient dire faible ou dysfonctionnel.
Ouais, en espagnol, débile, c'est faible.
Voilà. Et c'est vrai. Et donc, le crétinisme des Alpes était lié à la carence en iode pendant la croissance des enfants. Et donc, ce manque d'iode entraînait des troubles fonctionnels du cerveau qui étaient irréversibles. Donc, on avait des enfants qui étaient normaux et qui sont devenus infirmes cérébrales du fait de cette carence en iode. Donc ça, en France, on a résolu ça parce qu'en fait, les Alpes sont loin de l'Atlantique ou de la Méditerranée. Donc, les gens qui sont plus proches des océans ont une consommation en iode régulière par du sel de mer. Le sel a longtemps été un conservateur des aliments, quand il n'y avait pas de frigo, quand il n'y avait pas de conserve, tout ça. Et donc, en montagne, le sel qu'on a, c'est plutôt du sel de mine, qui sont vous avez des mines de sel qui sont là depuis des millénaires, en fait, qui sont le résultat d'anciens océans qui ont été là et qui ont été soulevés avec ces montagnes. Mais ce sel-là a perdu son iode. Donc, en fait, c'est un sel qui est appauvri en iode. Et donc, on a enrichi, ça c'est de la médecine publique, on va dire, de la santé publique, on a enrichi le sel alimentaire de table en iode. Donc en France, tous les sels de table sont obligatoirement enrichis en iode, si ce n'est pas du sel marin.
Alors revenons sur ces histoires de prévention. Qu'est-ce qui peut perturber donc la thyroïde? On n'a pas parlé des perturbateurs endocriniens par exemple.
Ah, oui, c'est sûr qu'ils sont effectivement très, très présents dans notre alimentation moderne. Très présent dans nos maisons, dans nos peintures, dans les cols qu'il y a sur nos moquettes ou autre chose. Très présent dans le tannage du cuir, ça c'est des choses volatiles. Ils sont très présents dans l'alimentation elle-même et ces perturbateurs endocriniens vont perturber très facilement le complexe de discussion qu'on a, si on veut, entre la génitale et la thyroïde. Et ces perturbateurs endocriniens apportent souvent une information œstrogénique, principalement. Donc, ils vont faire croire que les ovaires en veulent encore d'énergie. Oui. Donc, la thyroïde va répondre à ça en donnant encore plus d'énergie.
C'est hormone-like, quoi.
Voilà, quelque part.
Donc, du coup, chez les enfants, il faut faire attention, j'imagine.
Il faut faire d'autant plus important chez les enfants, surtout de 1 an jusqu'à 7 ans, parce que tout cet axe qui gère la thyroïde gère aussi l'immunité. Mmh. Et c'est la période où on va devenir morveux. Hein, c'est la période où on va avoir de grosses amygdales. C'est la période où on peut faire une appendice le plus souvent. Et ces tissus-là sont sous la dépendance du fonctionnement de cette glande, de cet axe en général. Et comme en même temps qu'on se construit, on le vit et on doit répondre aux agressions du monde, on utilise des outils qui sont en train de se construire mais qui ne sont pas forcément performants. Et donc l'organisme a tendance à augmenter le volume pour essayer d'augmenter le rendement d'un outil peu performant. Donc c'est pour ça que les amygdales au début vont grossir jusqu'à au moins 4-5 ans. Et puis après, ce tissu va se perfectionner, va se réduire et donner des amygdales normales. Donc enlever systématiquement des amygdales parce qu'elles sont grosses sans aucune autre raison, ce n'est pas ça qui va empêcher de faire des angines ou des choses comme ça. Ça, c'est une stratégie qui a été longtemps menée où on enlevait les végétations et les amygdales. Les végétations, ça repousse. Donc, il y a des enfants qui ont été opérés 3 fois, 4 fois des végétations. Mais en fait, c'est simplement un tissu naturel qui est en train de se construire et qui n'est pas efficace. Et donc, il prend du volume pour essayer de tendre à une efficacité. Puis après, il va réduire ce volume. Donc, quand on peut attendre...
Pédale douce sur l'ablation, quoi.
Voilà, la seule indication de l'ablation des amygdales, c'est quand l'enfant risque de s'étouffer parce qu'elles sont tellement grosses que ça obtrue. Et maintenant, les ORL, ils ont plutôt tendance à en enlever qu'une seule et laisser l'autre parce qu'on a bien compris que c'est un tissu qui va fluctuer dans le sang et qui est fondamental pour la bonne gestion de notre immunité. Et en ce moment, on en a besoin.
Intéressant. Alors, revenons sur justement les traitements, le fameux traitement de la L-tyrosine, la connue avec le médicament de Levothyrox. Est-ce qu'on peut s'en passer? Alors, avant d'en venir là, à cette question cruciale, la réponse est évidemment non si on a une prescription, mais vous allez apporter toutes ces nuances. Mais avant ça, avant justement d'avoir un traitement, qu'est-ce qu'on peut faire avant d'en arriver là?
Eh bien, si on a une tendance à vous prescrire de la...
Quand on n'a jamais été sous traitement. Hein.
Oui. Mmh. Si on veut venir vers ces traitements-là, c'est que le médecin, il suspecte des choses ou il a pris une prise de sang qui a un bilan qui est perturbé. Alors, il y a des gens qui ont des bilans perturbés, mais qui physiologiquement n'ont aucun signe clinique de cette perturbation biologique. Donc, ce qui est important, ce n'est pas de soigner une feuille de papier, mais c'est de soigner un individu. Donc, si cliniquement, mon patient n'a aucun signe d'insuffisance thyroïdienne, alors que sa prise de sang montre qu'il tend vers une insuffisance thyroïdienne qui peut être frustre, mais qui peut être déjà présente sur mon bilan biologique.
C'est-à-dire les signes que vous avez décrits tout à l'heure, voilà. Dans un sens comme dans l'autre.
Dans ce cas-là, on a du temps avant d'introduire un traitement substitutif. Si on a du temps avant d'introduire un traitement substitutif, là, on va plutôt mettre en place un traitement préventif. Et si on veut mettre un traitement préventif, on va aller vers un enrichissement en iode avec des algues, avec des choses comme ça.
Pour quel profil, ça, par exemple ?
Pour les hypos, on va donner une plante qui stimule directement la thyroïde, comme l'avoine, qui va avoir une action à la fois sur la thyroïde et sur la génitale, et qui va avoir une action de régulatrice et de soutien.
Pour les deux, là, du coup.
Pour les deux.
Oui.
Voilà.
Donc le fameux porridge du matin, voilà, facile à prendre. Hein.
Histoire de booster un peu les coups de fatigue saisonniers. Et puis, si on est plutôt dans une tendance à aller vers l'excès de la thyroïde, donc une T4 très forte et une TSH faible, si on a une tendance à aller vers l'excès de la thyroïde, et bien là, on va plutôt prendre des plantes qui vont tempérer cette action. Et les plantes comme les crucifères, donc les choux, brocolis, choux de Bruxelles, choux-fleurs, tout ça, le réfort, le navet... les rutabagas, radis noir. Donc toutes ces plantes-là ont une tendance à capter l'iode et vous empêcher de fixer l'iode. Donc elles ont une action freinatrice de l'apport d'iode à l'organisme. Donc elles ont une action indirectement freinatrice.
Y compris l'organe germe, mais j'imagine.
Je ne sais pas répondre là.
Ouais.
C'est une question piège.
Pardon, je ne l'avais pas prévu.
Non, mais a priori oui. Voilà. A priori oui, mais je ne sais pas répondre.
Ouais, on regardera.
On regardera.
On ne sait pas tout, et c'est bien de le dire aussi quand c'est tout à fait honnête, et j'apprécie, et je pense que vous qui nous écoutez aussi. Alors revenons sur, sur les traitements. Donc l'idée, c'est d'essayer, donc on essaye de soutenir et de prévenir avec les astuces et les propositions que vous venez nous faire, et puis après on refait une prise de sang et on voit comment ça s'est comporté.
Oui, et puis on observe beaucoup la clinique surtout.
Oui, si on commence sans.
Voilà, et en plus de ce soutien direct sur la thyroïde, on peut essayer de travailler sur le rythme des cycles. On peut donner des plantes qui peuvent tempérer, par exemple, des cycles qui sont trop courts, qui auront une action à trop stimuler la thyroïde, ou des cycles qui sont trop longs, qui, par contre, peuvent entraîner l'inverse sur la thyroïde. Donc, les syndromes prémenstruels, si on ne s'en occupe pas, eh ben, ils peuvent avoir aussi une influence sur la fatigabilité de la thyroïde. On peut se méfier aussi des sportifs qui, pour faire de la masse musculaire, prennent des compléments alimentaires en grande quantité. Il y en a qui se reconnaîtront, je pense, et qui permet de faire un bon bodybuilding et avoir des volumes musculaires bien dessinés. En fait, ces compléments alimentaires sont très très riches en œstrogènes, parce que c'est les œstrogènes qui font le volume musculaire et pas la puissance, mais le volume de la musculature. Quand on fait des excès de ces régimes-là, on peut sursolliciter la thyroïde et la rendre malade. Mmh. Et parfois, la thyroïde, elle est malade, paradoxalement, en faisant le coup de feu, comme le feu de paille. C'est-à-dire qu'elle va devenir hyper fonctionnelle pendant un temps, et elle va s'épuiser là-dedans, et après, elle va sombrer dans l'hypothyroïdie, et elle ne s'en ressortira pas. Voilà. Donc, ça, il faut bien comprendre ce mécanisme-là, et qu'on peut être dans... Donc, toujours se méfier avec le chou, c'est...
Les œstrogènes-like, en
fait, c'est plutôt tout ça qu'il faut maîtriser dans l'accompagnement du bon fonctionnement de notre thyroïde. Et puis parfois, il faut quand même la surveiller, mais pas être trop invasif et se rendre compte que tout compte fait, on a quand même écrété un épisode où elle était un peu en fragilité, et puis ça se régule quasiment tout seul, et sans qu'on ait mis un médicament chimique derrière. Il n'y a pas d'urgence à traiter une thyroïde tant qu'on n'est pas à un stade dégradé comme celui de la clinique qu'on a évoqué. Autrefois, on ne savait pas du tout doser la TSH ni la T4, donc on faisait souvent des diagnostics à retard. On peut avoir un goitre, c'est-à-dire une thyroïde qui augmente de volume, et on a des photos historiques où les personnes ont plus gros que la tête d'un nourrisson sous la gorge. Et pour autant, ils avaient une vie quasiment normale, une activité normale, sauf cette grosse thyroïde énorme. On ne voit plus ça. Donc ça veut dire qu'on les prend quand même en charge très tôt, nos problèmes thyroïdes. Donc on n'a aucune raison de se mettre dans l'urgence.
Parce qu'à l'extrême, c'est quoi en fait la pathologie de la thyroïde? Qu'est-ce que ça peut entraîner? Donc on a dit,
à l'extrême, ça entraîne des problèmes cardiaques. Et ça, c'est plutôt grave. Ça entraîne des problèmes métaboliques importants qui sont plutôt graves. Donc, ça peut, à l'extrême, nous amener à une mortalité précoce.
D'accord.
Mais il faut vraiment beaucoup de temps. Et je ne veux surtout pas que les patients, mais nos auditeurs, qui sont potentiellement des patients, il ne faut surtout pas qu'ils paniquent. Parce que vraiment, vraiment, on pêche par excès actuellement, parce qu'avant, l'histoire de la médecine a longtemps été en retard par rapport à ces diagnostics, et qu'on a une vision qui est oubliée dans notre monde moderne, parce que c'est des choses qu'on ne voit plus, mais il y a quelque chose qui transpire du passé de la médecine, et on a mis une certaine urgence à traiter les thyroïdes, parce qu'il y a une époque où on ne savait pas faire le diagnostic biologique, donc on était toujours en retard. Donc maintenant, on sait faire le diagnostic biologique, et donc on a le temps de prendre le temps et de surveiller. Ça, il faut bien le mettre en conscience, et ça je ne saurais pas le dire, mais ça 20 ans, 30 ans, quoi, qu'on est vraiment parfait dans la détermination de...
Ouais, donc c'est quand même beaucoup.
Voilà. Donc, du coup, on trouve des patients qui se retrouvent sous traitement de substitution, alors que ce n'était pas la peine d'introduire ce traitement-là. Donc c'est un énorme travail, après, pour le réduire, et puis éventuellement le supprimer.
Ça se fait, ça ?
Oui, ça, moi, avec ma prise en charge, mais c'est le médecin qui le fait, c'est pas le patient qui doit le faire tout seul.
Bien sûr.
Mais avec ma prise en charge, on peut arriver à diminuer la dose. On peut arriver, et c'est pas une obligation. Il y a des patients qui sont trop détériorés pour qu'on puisse descendre. Mais si on a du potentiel du tissu thyroïdien à fonctionner, on peut arriver à bien stimuler ce potentiel de tissu, ce qui nous amène après à surveiller la biologie et de voir qu'effectivement, les résultats... se modifie, et donc à modifier le traitement substitutif en le diminuant progressivement, jusque parfois à un certain palier où on ne peut pas descendre en dessous. On se rend vraiment compte que là, on a des difficultés avec le patient. Et puis, il y a certaines personnes, en 2-3 ans, pour lesquelles j'ai pu arrêter ce traitement-là, et qui maintenant fonctionnent très très bien sans substitution.
Ça, comment est-ce qu'on sait qu'on peut aller vers cet arrêt-là? Est-ce que c'est des prises de sang? Est-ce que c'est parce qu'on a un doute, parce qu'on le fait depuis 20 ans et que finalement, on s'était peut-être précipité, comme vous le disiez, il y a 20 ans? Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'on pourrait en sortir, finalement?
Le mieux, c'est de poser la question à son médecin. Et c'est lui qui peut éventuellement envisager de voir avec vous comment vous accompagner pour diminuer progressivement les doses. Ce qui est sûr, c'est que moi, je trouve quand même un peu dommage qu'on donne une dose qui est la même tout au long de l'année. Parce qu'on a de grosses variations des besoins métaboliques de la thyroïde. Et notre thyroïde a fait un peu le yo-yo d'un jour sur l'autre. Et elle fluctue beaucoup dans son activité tout en restant dans la norme. Pour s'adapter aux changements de température, tout ça, quand vous avez, quand il y a 10 degrés de température de différence entre le lundi et le vendredi, là, votre thyroïde, elle a travaillé beaucoup. Quand vous êtes substitué, vous avez une dose linéaire, et donc, à mon avis, il y a une période de l'année qui est l'été où on est en général en surdosage, physiologique, j'entends, et pas forcément biologique. Et on se rend compte qu'on baisse le médicament en plein été et on a une biologie qui reste normale pour autant. On a été moins substitutif à l'organisme et on donne un certain volant à cet organisme pour pouvoir mieux s'adapter à cette saisonnalité. Donc ça, c'est tout un débat qu'on a à ouvrir en médecine, mais c'est toujours dommage sur une glande de l'adaptation aux à-coups saisonniers d'avoir un traitement qui se substitue de façon linéaire.
Ce qui paraît pas évident quand même, c'est que tous ces facteurs extérieurs de fluctuations, de température, de saison, etc. Comment est-ce qu'on peut les mesurer? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'air de se plaindre, effectivement, de ces histoires de dosage. Enfin, ce que j'ai entendu, moi, je ne suis pas une spécialiste du sujet, mais de dire, ça y est, j'ai trouvé enfin le bon dosage. Donc, est-ce qu'effectivement, d'un mois à l'autre...
Il faut plus d'un mois, c'est-à-dire qu'il faut bien facilement 6 semaines avant de faire un contrôle. Il faut bien comprendre qu'on a une inertie. Ce n'est pas comme avec l'insuline. Pour la glycémie, on fait un petit prélèvement de sang au bout du doigt et on sait tout de suite le taux de glycémie qu'on a et on va adapter sa piqûre d'insuline quand on est diabétique à insuline. Donc là, on gère, on a même des pompes à insuline. Maintenant, on a des process qui permettent, avec votre téléphone portable, de savoir réellement ce dont vous avez besoin. Donc ça, on a pris en compte cette fluctuation et le modernisme nous permet d'avoir des outils qui permettent de la fluctuation. Et quelque part, si on est dans l'hyper-moderne pour la gestion de l'insuline, à mon avis, on est resté un peu au Moyen-Âge dans la gestion de traitement de la thyroïde.
Mais ça voudrait dire quoi, par exemple, l'été approche, concrètement, je vais demander à mon médecin de faire une prise de sang pour pouvoir vérifier finalement mon taux
et
pouvoir l'ajuster. Comment est-ce qu'on peut faire pratiquement?
On peut faire comme ça et puis envisager un contrôle 6 semaines après pour voir si le fait d'avoir baissé de 0,25 microgramme ma dose, ça a modifié mon équilibre ou pas, et si je peux rester sur ce dosage-là ou pas. Et puis si c'est bien, on reste équilibré à un dosage moindre. Et puis, si on reste toujours sur un chiffre qui nous permet de baisser encore, on peut éventuellement forcer encore un petit peu, sachant qu'après, le temps passe et qu'on va affronter l'automne. Donc, en automne, on ne va pas s'amuser à baisser un traitement. Moi, je pense que c'est vraiment fin de printemps, début d'été qu'il faut commencer à envisager une diminution du traitement pour voir s'il est possible ou pas de faire un sevrage à un moment donné ou d'atteindre un palier moindre qu'on va accompagner avec des plantes qui vont soutenir par ailleurs pour pas qu'on redécompense quand on arrive à l'automne. Après, si on n'arrive pas trop à faire ça, faut pas être têtu. C'est-à-dire que notre glande, elle a plus de capacité du tout de réponse. Et donc, dans ce cas-là, on est tenu à une substitution pour le restant de la vie.
Y a pas mal de gens aussi, j'ai le sentiment, vous allez me dire si c'est vrai ou pas, qui ont peur en fait, de modifier ce dosage parce qu'ils ont peur de l'impact justement sur leurs émotions, sur leur poids éventuellement, etc.
Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu avec ce qui a fait un peu scandale lorsque l'Evothyrox, pour ne pas le nommer, a changé la formulation de ses excipients. C'est-à-dire que c'est tellement sensible l'assimilation du dosage qu'il dépend aussi beaucoup de ce qui entoure la molécule qu'on donne, qui est une hormone. Le lévothyrox, c'est une hormone, c'est de la T4 que je vous donne quand je prescris ça. Donc cette T4, est-ce que mon tube digestif va bien l'assimiler ou pas? Donc déjà, on vous dit de le prendre à jeun le matin et attendre un peu avant de manger. Donc si un matin vous êtes un peu en retard, pressé, que vous prenez votre cachet et vous mangez votre petit déjeuner tout de suite après, déjà vous avez moins assimilé d'hormones que ce que vous croyez avoir pris. Donc ces fluctuations, elles sont déjà quand même présentes. Quand vous avez un mauvais réflexe, que vous mangez tout le temps et que votre traitement, ben, en fait, on a été amené à monter votre dose parce qu'on ne s'est pas rendu compte que vous le preniez au mauvais moment. Et puis si d'un seul coup, vous lisez la notice et vous dites « Ah, il faut que je prenne à jeun tout ça » et que vous vous mettez à faire ça sans aucun contrôle, ben, d'un seul coup, vous tombez en surdosage parce que là, voilà. Donc, ce sont des traitements très complexes lorsque l'industriel change un excipient et qu'il ne le dit pas, fait que les patients ne se sont pas fait contrôler à 6 semaines après le changement de molécule. Si on avait simplement donné cette information, qu'on est obligé, pour une raison X ou Y, de changer la formulation des excipients de ce médicament, qu'on avait donné cette information aux médecins et aux patients qui prennent ces médicaments. Il y a des patients qui sont tellement régulés qu'ils font un dosage une fois dans l'année. Donc si on change la fabrication, et qu'on ne dit pas aux gens et qu'ils ne font pas de contrôle, et ben ils vont rentrer en hyper ou en hypo selon leur propre métabolisme. Donc, c'est même pas linéaire. Et donc, on va avoir plein de signes d'intolérance qui vont survenir, mais qui sont faits des signes liés à un mésusage ou à un mauvais dosage du traitement qu'ils prennent. Hein, donc ça, il faut bien comprendre effectivement que c'est très subtil et qu'il n'y aurait pas eu de scandale si on avait eu simplement de l'information.
Pour faire ce mix dont vous parliez, de baisser un peu le dosage avec des plantes, j'imagine qu'il faut être accompagné par un médecin qui connaît extrêmement bien le sujet.
Tout à fait, tout à fait, ça ne s'invente pas. Donc il y a du travail derrière, on ne fait pas ça en 2 jours parce qu'on a lu un bouquin qui nous permet de croire ça. Ou parce qu'on a écouté le podcast avec Anne Guéquier et le docteur Jean-Christophe Charrier.
Non, mais je le dis bien parce qu'il faut vraiment faire attention à ça, effectivement. C'est des sujets là sensibles.
Là, c'est le médecin qui gère ça. Il faut qu'il soit formé à ça et qu'il vous accompagne à ça. Et il ne faut pas de vous-même faire ça parce qu'on peut effectivement rentrer dans de la pathologie thyroïdienne qui donne de l'inconfort.
Super. Bah, écoutez, est-ce qu'on a fait un peu le tour du sujet? Est-ce que vous voyez autre chose à ajouter, docteur Charrier?
Ben, je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses sur ce petit papillon et qu'on peut aller s'envoler maintenant.
Ouais, on peut s'envoler. Allez, ça représente à peu près. Est-ce que c'est en augmentation déjà cette pathologie? J'en ai pas parlé au début. Et est-ce qu'on voit effectivement de plus en plus de cas, en particulier chez les femmes liées à la thyroïde?
Alors, ça semble être en augmentation dans la population féminine, effectivement. Il faut pas négliger l'arrivée de la contraception aussi, qui a modifié aussi. Les équilibres hormonaux et qui peuvent avoir un impact sur la fonctionnalité de la thyroïde.
La radioactivité aussi.
La radioactivité. Vous savez que quand
on a parlé de Tchernobyl quand même à une époque.
Bien sûr. Puis quand vous habitez à proximité d'une centrale nucléaire, dans les mesures Céveso du rayon auquel vous êtes, vous avez à la maison, on vous a donné une boîte avec des pilules de diode. Parce que si vous êtes face à une catastrophe nucléaire, il faut saturer votre thyroïde en iode parce que l'iode est très sensible au rayonnement nucléaire, et c'est parce que vous allez saturer votre thyroïde avec de l'iode sain que vous n'allez pas vous fusiller votre thyroïde par la catastrophe nucléaire. Donc ça, c'est très bien connu. Après, il y a d'autres problèmes. Le nucléaire, il n'y a pas que la thyroïde, mais déjà, ça, c'est le premier réflexe. Dans les zones à haut risque et à proximité, il y a des comprimés d'iode qu'on donne tout de suite aux personnes qui sont exposées.
Peut-être une dernière chose pour les personnes, soit en préventif, soit qui ont des problèmes de thyroïde. Qu'est-ce qu'on peut prendre de toute façon, de manière absolue, en solution naturelle, qui n'est pas un problème et qui aide vraiment à réguler? On a parlé du porridge tout à l'heure, de faire des cures de porridge.
La soupe miso, par exemple, est très bienvenue aussi, pour soutenir les thyroïdes un peu faibles.
C'est le soja fermenté qui fait les faibles?
Non, c'est surtout le... Alors, soja apporte un petit peu d'oestrogène qui vient soutenir. Mais c'est surtout l'algue qui sert à faire la soupe miso.
Oui.
On va faire rentrer de plus en plus les algues dans notre alimentation parce que c'est un nutriment qui est extraordinaire et qu'on ne consomme pas dans notre culture occidentale, mais que les Asiatiques utilisent beaucoup dans leur cuisine. On a maintenant des séchoirs qui sont à l'île de Groix, je crois, parce qu'ils ont mis un système qui produit de l'électricité en excès. Donc ce système-là fait tourner un four de séchage et du coup ils en profitent pour sécher des algues. Donc tout ça, on trouve maintenant du sel de mer, mais qui peut être enrichi avec des algues qu'on peut utiliser pour cuire son poisson. pour donner de l'iode justement à un plat très marin.
Les algues en paillettes, tout les simplement, paillettes, tout pour ça. Et puis les salades.
On peut aussi prendre l'habitude, tout simplement, de manger des fruits de mer. Donc manger des huîtres, manger des moules, manger des palourdes. Et moi, ce qui m'intéresse, si on veut rentrer ces aliments comme aliments de santé, c'est pas de manger une douzaine d'huîtres tous les 15 jours le dimanche. C'est de manger 3 huîtres tous les 2-3 jours. Et quand on est fragile, ça peut être bien de, dans son entrée, de se mettre 3 huîtres plus autre chose, ou 3-4 palourdes qu'on va juste manger comme ça ponctuellement, mais qu'on va répéter plusieurs fois dans la semaine.
Alors ça, ça vaut en prévention. Et par contre, pour les gens qui ont des problèmes de thyroïde, ça vaut pour les hyper et les hypos, ça ?
Ça, c'est plutôt pour les hypos.
Ouais, c'est ça.
Hein, c'est plutôt pour les hypos.
Donc on précise toujours. Bon, ben, c'est parfait. Ben, écoutez, merci infiniment, docteur Charrier.
Merci, Anne.
À bientôt.
À bientôt.
Docteur Jean-Christophe Charrier, merci infiniment pour tous ces bons conseils. On peut vous retrouver sur Internet pour suivre l'actualité de l'Institut d'Endobiogénie pour une médecine intégrative et préventive sur le site www.iempi.fr, ainsi que trouver un médecin formé à cette pratique. Et bien entendu, découvrir tous vos livres, Les clés de l'alimentation anti-cancer chez Terre Vivante, ou Soigner au naturel les maux de l'automne et Se soigner au naturel toute l'année, disponible aux éditions Pratt. N'hésitez pas aussi à écouter ou à réécouter la toute première série en 6 épisodes avec le docteur Charrier et tous ses excellents conseils. Voilà, tout cela, évidemment, ne remplaçant pas une consultation chez votre médecin. Merci.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Retrouvez en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose Éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol, ainsi que mon tout nouvel oracle du Scarabée d'Or chez le même éditeur. Et enfin, pour nous soutenir, participer au cercle de discussion ou rencontrer en direct nos invités, rejoignez dès maintenant la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci.
Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Vous êtes déjà plus de 30 000 à recevoir mes coups de cœur, mes conseils, mon actu, des infos inédites sur Métamorphose, ainsi qu'une sélection de podcasts thématiques. Un mercredi sur deux, j'y fais aussi un tirage de mon oracle que je commande spécialement avec un mini podcast audio exclusif. Un doux moment d'introspection, toujours accompagné d'un rituel. Alors pour rejoindre cette aventure et vous abonner gratuitement, rendez-vous dès maintenant sur notre site métamorphosepodcast.com. Vous y trouverez dès la page d'accueil un encart d'inscription. Alors à très vite dans votre boîte mail, les amis.